Alors, on a prié, on vient de prier, mais comme ce dont nous parlons nous dépasse largement, on va, à l'intérieur de notre cœur, faire cet acte de foi d'appeler tous ces saints en présence de qui nous sommes pour qu'ils nous donnent ce que le Père Marie-Joseph lui-même leur demandait. Alors, il leur demandait une unique chose, qu'ils soient là pour nous aider à connaître la longueur, la largeur, la hauteur, la profondeur, l'amour du cœur de Jésus. Il leur demandait la passion pour Jésus et finalement d'être la joie de Jésus en acceptant de répondre par la foi jusqu'à la sainteté à l'amour que Jésus en premier nous donne. Donc simplement dans un acte de foi, nous faisons le signe de la croix qui est le signe du plus grand amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors j'ai noté des choses pour que je vous dis l'essentiel, sans m'égarer. Je voulais commencer par donner le témoignage du père François-Marie Lettel, qui est l'un des consulteurs à la cause des saints à Rome et qui est le secrétaire de l'Académie pontificale de théologie. Il est venu rencontrer le père Marie-Joseph quelquefois et après son décès, à trois reprises, voilà ce qu'il a écrit en parlant du père Marie-Joseph et de la théologie des saints. Le 30 août 93, donc un mois après l'entrée dans la vie du père. Vous savez que je resterai toujours proche de vous, avec toute ma pauvreté, mais avec la perle précieuse de la théologie des saints comme théologie de l'amour de Jésus. Plus que tout autre, le père Marie-Joseph en avait compris l'importance. C'est pourquoi il m'a tellement encouragée. Un an après, le 8 mars, il écrit « Je crois que personne ne m'a autant encouragée que le père Marie-Joseph sur mon chemin de la théologie des saints, un chemin d'absolue pauvreté. » Et le 10 février 96, il publiait un livre et il écrit « Je viens partager avec vous mon nouveau trésor reçu de Jésus et de Marie, mon nouveau livre, je le dédie au Père Pessac, au Père Le Guillou et au Père Marie-Joseph, ceux qui m'ont le plus aidé et soutenu dans la théologie des saints. » Voilà, donc c'est une introduction qui a du prix et du poids. Et à partir de ce regard, tout ce que je vais vous dire maintenant, sauf quelques commentaires, ce sont exclusivement des extraits du livre « Être la joie de Dieu ». Exclusivement. Je n'ai pas pris d'autres textes pour que vous ayez la joie de les relire et de les redécouvrir. Donc, le père Marie-Joseph avait, c'était un point d'honneur, une bibliothèque extrêmement importante. Et voilà ce qu'il écrit lui-même de la bibliothèque pendant des années. Pas un livre sur Saint François ne paraissait en français ou en allemand sans que je ne le commande, tant je tiens à une bonne bibliothèque. Malheureusement, aujourd'hui, les gens n'arrivent plus à lire et c'est dommage. Il y a la télé. Il y a la radio, il y a les réunions, il y a le rythme de travail et la fatigue. C'est dommage. Je crains le lecteur d'un seul livre, dit l'adage. Cela peut être interprété dans deux sens. Alors, ça c'était... Ça fait rien. Ça... Je parle plus fort si ça marche pas. Donc... non seulement il avait une grande bibliothèque, mais toujours, toujours, ceux qui l'ont personnellement connu peuvent l'attester, il avait à portée de main une biographie de saint, parce qu'il y cherchait, et comment, en tant qu'humains, comme nous tous, ils ont gravi le chemin jusqu'à être saisis par Dieu, et aussi leur mission. Alors voilà un peu ce qu'il dit, lui, de la théologie des saints. Donc je le cite. « La véritable science, c'est celle des saints. Tous les saints sont suscités par Dieu pour le bien de l'Église. Dans le plan de la Providence, les saints occupent chacun leur place déterminée. Ils ont un rôle nettement déterminé et ils possèdent chacun leur mesure de grâce. Chaque saint a sa mission dans l'Église et certains ont une mission toute particulière. Les saints ne se donnent pas à eux-mêmes leur mission. Dieu l'a voulu ainsi. Les saints sont nos modèles, nos amis, nos guides, des prophètes. Ils nous connaissent, ils nous aiment, ils nous invitent à les rejoindre, ils nous prennent par la main. Je crois à la communion des saints. » Ici, Sainte Jeanne de Chantal. « L'imprévoyance des saints déconcerte les calculs les plus avisés. Les saints, ceux qui osent croire en la Providence, se confiant en sa grâce, osant aller de l'avant avec courage, le courage chrétien. Les saints se laissent être saisis par l'appel de l'Église. » Oh, c'est vraiment, écoutez bien, « comme le prophète était saisi par les cheveux pour être appelé à une tâche. » Et en écoutant tout ça, regardez, il se décrit, hein, parce que ce qu'il dit, c'est quelque chose qu'il a expérimenté. Tout ce que je vous dis, vous pouvez voir la figure du Père Marie-Joseph. Mais c'est quand même étrange. Je relis cette dernière phrase. « Les saints se laissent être saisi par l'appel de l'Église, comme le prophète était saisi par les cheveux pour être appelé à une tâche. » Alors, comment se voyait-il comment voyait-il les saints et comment se voyait-il? Et là, c'est un point personnel que je dis, mais pour nous aider à comprendre la phrase suivante, pour le Père Marie-Joseph, il n'y avait pas Jésus, et puis nous en face de Jésus. Et puis nous qui essayons d'avoir la taille de Jésus. Pas du tout. Pour le Père Marie-Joseph, c'était, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Il nous faudrait lire ici le chapitre 15 de Saint Jean, la vigne. Plus nous sommes en Jésus, et plus nous sommes nous-mêmes. Alors voilà ce qu'il dit. Nous sommes le corps de Jésus. Que c'est beau! Rien ne peut nous ravir l'amour que nous porte notre Dieu, notre maman, nos saints, avec qui nous formons une unité admirable. Nous sommes le corps mystique du Christ. La toute-puissance de l'amour de Jésus pour nous saura faire de nous aussi, si pauvres que nous sommes, des apôtres de feu. Nous sommes nés et baptisés pour devenir des saints. Ce sont toujours ces paroles. Devenir des saints, vous le pouvez, vous le devez, vous le voulez, mais il faut la grâce. N'ayez pas peur de devenir des saints. Nous ne serons jamais saints par nous-mêmes. Dieu et lui seul, notre Seigneur seul, peut nous donner la sainteté. Alors, plus loin, une pensée qui lui était très chère, les saints savaient leurs défauts. Cette connaissance les rendait humbles et vigilants. Mais ils étaient des hommes qui ont trouvé le Christ entendez, ils ne sont pas restés repliés sur leur pauvreté. Les saints étaient des hommes comme nous, mais ils avaient la manie de vouloir voir leur âme telle qu'elle était aux yeux de Dieu. Ils connaissaient leurs défauts, grands et petits, ce qui, d'ailleurs, si parfois ils étaient attristés de ne pas aimer davantage l'amour, ne les décourageait pas, mais les poussait à se méfier d'eux-mêmes, à se surveiller par rapport à leurs défauts, à les combattre sans merci, mais par-dessus tout, à se plonger par Marie, notre maman, dans le cœur de Jésus, notre sainteté. Plus ils réalisaient et expérimentaient leur néant, par la constatation des tendances intérieures, ou l'expérience d'une faute, ce qui leur permettait de toucher du doigt leur néant, mais pour se reporter vers Jésus avec confiance, avec le droit infini à sa toute puissante miséricorde. Plus donc ils étaient heureux, et plus ils progressaient dans la vérité, et donc dans l'amour. Saint François de Sales aimait dire « À quoi sert une belle partition tant que ce n'est pas chanté ? L'évangile est magnifique, mais tant qu'il n'est pas vécu, pour que l'évangile pénètre dans les cœurs, il faut qu'il soit vécu. C'est cela la vie des saints. Les saints, c'est une partition. C'est la partition de l'évangile chanté. » Alors, maintenant, on va regarder Pierre. Il faut que je me lève parce qu'en fait, sinon je ne vois pas ce que vous voyez. Donc, parmi ceux qui sont dans le bureau du Père Marie-Joseph, il faut qu'on regarde d'abord Pierre. Alors, il va dire, Jésus nous dit, à travers la première lettre de Saint Jean et à travers Saint Luc au chapitre 12, que nous devons établir notre foi sur ceux qui ont vu et entendu, sur les grands témoins. Donc, Pierre, Paul, les apôtres, les premiers chrétiens. Pourquoi ? Il s'agit de comprendre où est pour nous le trésor, celui qui comblera notre cœur. Notre foi s'appuie sur le fondement des apôtres. Donc, Pierre en est la base. Pierre, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est le Christ qui bâtit. Nous n'avons pas couru après des fables, dit Pierre. Pierre, m'aimes-tu ? Tu es le pasteur de mes brebis, confirme tes frères. La primauté du pape n'est nullement une affaire de domination, c'est une primauté d'amour. Avec Saint François, je n'ai jamais cessé de vous donner le sens du mystère de Pierre, l'amour du cœur pour Pierre. Ce n'est pas une adhésion froide de l'esprit, quand on pense qu'il est le Père commun. Qu'à l'exemple de François, nous devenions catholiques et apostoliques. Merci, Seigneur. Merci, Saint-Pierre. Merci à Pierre aujourd'hui. Au pape Paul VI, à Pie X. Alors ici, nous avons Jean-Paul Ier, Pie XII, Pie X, Jean XXIII. Jean-Paul II, Benoît XVI. Oui, le père ne l'a pas connu, mais il se connaît maintenant. Et comme on est dans l'actualité de la communion des saints, eh bien, ça y est. Ils nous gardent intimement unis à eux. Regardez, vous voyez la communion des saints. Nous sommes heureux de nous savoir enracinés dans leur cœur, c'est-à-dire dans leur amour et dans leur foi. François est venu voir Innocent III. La leçon est nette. Dans l'adhésion à Pierre, François est devenu homme évangélique.
Et notre prière rejoint la prière de François. Et la prière de François nous obtient la grâce absolument nécessaire de communier à la foi de Pierre. Alors ensuite, dans son bureau, il y a Paul. Avec Paul, il s'agit de nous attacher au Christ avec une sainte passion. Il s'agit de nous dépenser pour gagner le monde entier au Christ, chacun selon sa grâce propre. C'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis. Et sa grâce en moi n'a pas été vaine. Et Paul nous parle de sa grande peine à la pensée que ses frères de race refusent le Messie. Nous désirons nous aussi gagner au Christ nos frères. Hélas, regardez ce réalisme. C'est pour cela que son bureau est tapissé des saints. Parce qu'ils découvrent en eux le réalisme de notre propre vie. Hélas, comme Paul, nous aussi, nous nous butons à la contradiction, à l'incompréhension, au rejet, à la persécution même. Mais comme Paul, avec François, il faut continuer, les uns soudés aux autres, à chercher le Seigneur, à l'aimer en nos frères, à le faire aimer, selon les possibilités de chacun, mais toujours en premier par l'apostolat essentiel, l'effort fidèle de la prière. Laissons-nous empoigner par le Christ. Certes, servir Jésus ne va pas sans souffrance. Nous sommes faibles, mais nous serons forts par la force même de Dieu. Demandons à Paul, et vous voyez quand je vous le lis, faisons-le. Demandons à Paul, surtout, son amour passionné pour Jésus. Et en cet amour, le sens et l'amour de l'Église. Paul, grand saint Paul, priez pour nous. Et puis, après Paul, eh bien, le père Marie-Joseph aimait regarder les premiers chrétiens. Nos frères, les premiers chrétiens, méritent notre affection. Le secret de leur vie, l'amour de Jésus pour eux. Le secret de leur vie, leur réponse d'amour pour le Christ. Dans cet amour, ils étaient unis les uns aux autres. Voilà l'Église. Ils avaient plus que nous le sens de leur unité dans le Christ, l'appartenance au corps mystique. Nous sommes unis dans l'unité même des trois personnes divines. Vous voyez, on n'est pas en dehors, à côté de Jésus, en face de lui, dans l'unité des trois personnes divines. Et l'Eucharistie est le signe de cette unité. Les premières communautés chrétiennes étaient unies de charité. Elles n'étaient pas à l'abri de tensions, mais ils s'enracinent dans le même amour du Christ. Nos fraternités ont été suscitées par cet esprit dont François fut un instrument providentiel. Pensons aux épreuves des premiers chrétiens et n'oublions pas les martyrs de notre temps. Le calvaire de tant de frères aujourd'hui, soyons fiers de la croix de Jésus. Nous avons besoin que les martyrs nous prennent par la main. Nous n'avons-nous pas tendance d'être comme tout le monde? Nous avons peur de nous engager, peur de nous singulariser au sens nécessaire de la foi. Mais Jésus rougira de nous si nous rougissons de lui devant les hommes. Nous devons être enfants de lumière. Les persécuteurs ont passé, les Nérons, les Valériens, les Dioclétiens, les Hitler ne sont plus. Leurs vaincus sont les vainqueurs. À nous que Jésus aime et que nous voulons aimer en retour, d'être ses témoins. Pourquoi les persécutions? La raison est simple. Le disciple n'est pas au-dessus du maître. Ils m'ont persécuté. Ils vous persécuteront. Vous serez en haine à cause de tous, à cause de mon nom. Les ténèbres n'admettent pas la lumière. Mais les chrétiens se distinguent par ce cri. Voyez comme ils s'aiment. Ils sont témoins, garants de notre foi. Ils nous aiment, ils nous invitent à les rejoindre. Qu'ils nous obtiennent de marcher à la lumière de leurs exemples. Ils étaient des hommes et des femmes comme nous. Ne sont-ils pas avec nous? Le chrétien ne sera jamais pleinement adopté par le monde. Le vrai chrétien ne pourra pas faire autrement que ce que dit Paul. Avec lui, je suis attaché à la croix. En lui, je suis crucifié pour le monde. Quoi qu'il en soit, un chrétien sera incompris et tracera le sillon. Et alors il donne son propre témoignage. Voilà ce qu'il dit de lui. En 1939, je suis affectée au service de l'infirmerie, au Fort Saint-Sébastien. Jusqu'ici, j'ai pu dire la Sainte Messe tous les jours. Cette vie est pour moi un chemin de croix. Le calice est plein, mais je garde courage. Je sais que Jésus et Marie sont providence. Ce que l'avenir nous réserve, qui le sait? Si je dois faire le sacrifice de ma vie, fiat. J'ai assez confiance en Jésus, Marie et Joseph pour le faire. Néanmoins, je crois que ma mission n'est pas finie. J'étais en train de fonder cette magnifique œuvre du Tiers-Ordre. Elle débutait si bien. Aussi, j'attends tout du bon Saint-Joseph, l'avocat des causes désespérées. Il fera un miracle. Il me protégera. Et tous ceux qui se sont consacrés au règne de Jésus. Prie la Sainte Vierge et Saint-Joseph pour que cela se fasse et toi n'aies aucun souci. Alors maintenant, nous regardons son amour de Saint François. Bon, vous voyez qu'il faut que je passe, parce que... Ah ben, le temps a déjà passé. Bon, alors, écoutez, comme le texte, il est fait, vous l'aurez. Je vous dis les titres, comme ça, vous les connaîtrez, puis après, on regarde que les images. Donc, pas encore les images, je vous dis les titres. Donc, le pourquoi... Son bureau est tapissé de Saint François, évidemment. Mais pas seulement de Saint François, mais de Sainte Claire. Alors, on revient, Sainte Claire. Ensuite, parce que, évidemment, vous comprenez que ce qu'il cherche, le Père, c'est l'identification à Jésus. C'est celui dont la prière ardente, au Mont Alverne, a obtenu une réponse de Jésus, fait que je ressente dans mon corps cet amour fou qui t'a permis de tant souffrir pour moi. Et donc, il a des pages extraordinaires qui sont dans le livre La Joie de Dieu sur, sur François. Et alors, de nouveau, il ose dire qui veut suivre vraiment Jésus souffrira. Écoutez bien cette parole, celui que le Christ destine à une très profonde intimité et union avec lui souffrira davantage. Mais ça en vaut la peine. Celui qui veut prendre Jésus au sérieux et que Jésus prend au sérieux doit s'attendre à la contradiction, au rejet, même de la part des siens très souvent. En plus des renoncements inhérents au combat spirituel, à la mort à soi, le refus de la part quelquefois de ceux qui devraient être les premiers à nous comprendre et à se réjouir de notre appel, à approuver, ce rejet constitue une terrible souffrance. Mais l'amour de Jésus, sa grâce, l'aide de la Vierge Marie et des saints, nous ferons prendre le dessus et réaliser l'œuvre de Dieu, son projet sur nous, au profit de ceux qui se sont opposés à la grâce de Dieu et à sa volonté sur nous. Et là encore, eh bien, pour ceux qui l'ont connu, le Père Marie-Joseph se décrit. Et cette statue a été plus qu'une statue. C'était son livre et il y apprenait à ressembler à Jésus et à l'aimer envers et contre tout. Alors, on passe François. Tu passes François. Et on arrive à Thérèse. Alors, évidemment, vous verrez dans le bureau du Père Marie-Joseph combien Thérèse est grande, même au niveau du tableau. Parce que Thérèse, elle est une parole de Dieu pour nous aujourd'hui. En 72, dans un pèlerinage, en se réjouissant des saints sur les traces desquels il allait, il a écrit « Quand viendra le moment où Thérèse sera déclarée docteur de l'Église ?» C'est vous dire combien il lui devait tout, et il l'a considéré vraiment comme une réplique de saint François pour nous aujourd'hui. Donc, le message de Thérèse, au dire des papes, est une parole de Dieu pour tous. La Providence lui a confié une mission exceptionnelle, particulièrement adaptée aux besoins actuels de l'Église et du monde, celle de nous faire cheminer dans la vie de l'enfant spirituel. Thérèse rappelle au monde que nous avons un Père qui veille sur chacun de nous, qui veut nous sanctifier à titre d'enfants bien-aimés. Conscient de notre néant, mais confiant jusqu'à l'audace en sa bonté de Père, nous ne devons avoir qu'un souci, faire plaisir en toute chose au bon Dieu, lui prouver notre amour par une fidélité dans la simplicité de notre vie. « Je suis venue allumer un feu sur la terre, dit notre Seigneur. Et Thérèse, je sens que ma mission va commencer, ma mission, faire aimer le bon Dieu comme je l'aime et donner ma petite voix aux âmes. Nous allons donc nous mettre à l'école de Thérèse et apprendre d'elle le fondement évangélique. Dieu est notre Père. Soyez proche d'elle. Ce n'est pas une affaire de moindre importance, c'est capital. Thérèse parcourt le monde pour faire aimer le bon Dieu. Mes enfants, si j'ai quelque chose à vous dire, c'est ce qu'elle a vécu par la confiance et l'amour. Retenez cela, et quand je ne serai plus là, vous l'inscrirez en lettres de feu dans votre cœur. Comme le curé d'Ars, comme Thérèse, comme tous les saints, sachez-le, Satan veut vous prendre cette confiance. À temps et à contre-temps, confiance. C'est ce que Thérèse a réactualisé de la mission de François, à sa façon, pour toute l'Église. Le bon Dieu nous connaît. Il connaît tout et tout et tout. Tout est programmé dans le plan de Dieu. Le bon Dieu connaît notre faiblesse. Quelle joie il a de nous guérir, plus qu'un médecin n'a de joie à guérir les malades. Thérèse a été très éprouvée dans sa vie, parce qu'elle était destinée à être conforme à son bien-aimé. Elle a souffert parce qu'elle était appelée à l'amour parfait, dont le chemin est la croix de Jésus. Si vous êtes en train de suivre ce chemin, sachez que c'est celui des vrais enfants de Marie. Sa vie extérieure était toute simple, mais son âme avançait jusqu'au martyr, elle, la mère du crucifié, la reine des martyrs. Que la Sainte Vierge nous aide à être ses petits, Demandons cette grâce à Thérèse. Confions-nous audacieusement, sans l'ombre d'un doute. Ah, que Marie nous donne cette grâce d'être des enfants. Que Thérèse nous l'obtienne. Voilà, je fais une parenthèse. Vous comprenez pourquoi son bureau est tapissé de saints? Quand il ouvrait les yeux, eh bien, il voyait le ciel et il demandait à chaque saint ce que dans sa mission, il continue de faire pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Alors, je passe Thérèse. Ah, très bien. Attends, reviens. Alors, vous regardez bien les parents de Thérèse, le père Vitritius Weiss, le père Honora Kozminski. Continue. Tourne. Alors, du père Kolb, si jamais j'ai pas le temps d'en parler, mais vous aurez mon texte. Évidemment, il puise auprès du père Kolb son amour fou pour l'Immaculée. Et il dira que, vous savez, un fils, quand son père l'assoit sur ses épaules, il dépasse même son père. Non pas par lui-même, mais parce que son père lui ayant transmis sa grâce, il le dépasse. Et il ose dire que d'une certaine manière, ayant hérité l'amour de Saint-Louis-Marie Grignion de Montfort, le père Kolb peut aller encore plus loin dans la révélation et la compréhension de la mission de l'Immaculée. Et dans son bureau, évidemment, le père Maximilien Marie Kolb, le martyr de l'amour, a une place tellement grande. Alors, on passe. Il faut que je vous dise un mot sur le prêtre. Alors, passe. Va à l'image suivante. Voilà. Là, il faut que je vous dise quelque chose, parce que, bon, j'ai noté le frère Conrad, enfin, ce que le père Marie-Joseph dit du frère Conrad, du frère Albert, de sainte Cécile, de Catherine de Sienne, de sainte Agnès, du père Vitritius Weiss, de la prière à l'école des saints. C'est extraordinaire. Mais bon, j'ai pas le temps. Alors, je continue. Attendez, reste au curé d'Ars. Le curé d'Ars, je vous ai dit, et Didier me l'a suggéré très fortement, de nous demander ce que les saints nous révèlent du père Marie-Joseph. Hein, tous ces saints qui sont dans le bureau, qu'est-ce qu'ils nous révèlent de l'âme du Père? Eh bien, je puise dans la lettre que le pape Benoît XVI a écrite pour les prêtres à l'occasion de l'année du curé d'Ars. Et donc, en fait, j'y puise uniquement les paroles du curé d'Ars et ensuite, je vous lis la lettre que le père Marie-Joseph a écrite à des confrères qui ont été ordonnés prêtres un mois après lui. Il a donc un mois de sacerdoce. Donc, le curé d'Ars parlait du sacerdoce comme s'il ne réussissait pas à se convaincre de la grandeur du don et de la tâche confiée à une créature humaine. Oh, que le prêtre est quelque chose de grand. S'il se comprenait, il mourrait. Dieu lui obéit. Il dit deux mots et notre Seigneur descend du ciel à sa voix et se renferme dans une petite hostie. Pour expliquer à ses fidèles l'importance des sacrements, il dit « Si nous n'avions pas le sacrement de l'ordre, nous n'aurions pas notre Seigneur. » Qui est-ce qui l'a mis là dans le tabernacle? Le prêtre. Qui est-ce qui a reçu notre âme à son entrée dans la vie? Le prêtre. Qui l'a nourri pour lui donner la force de faire son pèlerinage? Le prêtre. Qui la préparera à paraître devant Dieu en lavant cette âme pour la dernière fois dans le sang de Jésus? Le prêtre. Toujours le prêtre. Et si cette âme vient à mourir à cause du péché, qui la ressuscitera et lui rendra le calme et la paix. Encore le prêtre. Après Dieu, le prêtre, c'est tout. Le prêtre ne se comprendra bien que dans le ciel. Ces affirmations, jaillies du cœur sacerdotal du curé d'Ars, manifestent en quelle haute considération il tient le sacrement du sacerdoce. Il est comme submergé par le sentiment d'une responsabilité sans borne. Écoutez, si l'on comprenait le prêtre sur la terre, on mourrait, non de frayeur, mais d'amour. Sans le prêtre, la mort et la passion de Jésus ne serviraient de rien. Le prêtre continue l'œuvre de rédemption sur la terre. À quoi servirait une maison remplie d'or si vous n'aviez personne pour ouvrir la porte? Le prêtre a la clé des trésors célestes. C'est lui qui ouvre la porte. Il est l'économe du bon Dieu, l'administrateur de ses biens. Laissez une paroisse 20 ans sans prêtre, on y adore des bêtes. Le prêtre n'est pas prêtre pour lui, il l'est pour vous. Maintenant, écoutez la lettre du Père Marie-Joseph, qui n'est pas à sa sœur, qui est à des confrères. Je ne sais, mais le jour de mon ordination, en face de cette redoutable dignité sacerdotale, de sa grandeur incompréhensible, je ressentis comme une frayeur pénétrée dans mon âme. N'étais-je pas trop faible et misérable pour prendre rang parmi les apôtres, pour assumer leur mission, pour revêtir toute leur divine grandeur? Mais le divin Sauveur nous dit « Pax vobis, ne craignez pas, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. » Oui, dans sa condescendance illimitée, dans sa miséricorde insondable, Jésus s'est identifié avec nous. Nous sommes Jésus, en quelque sorte. Il s'est opéré entre lui et nous une union comparable, je dirais, à l'union hypostatique. En notre personne, le Christ veut continuer de vivre sa vie terrestre pour offrir chaque jour à son Père le sacrifice d'agréable odeur, victime, hostie pure, sainte, immaculée. Par nous, il veut continuer à répandre les trésors de sa grâce. Ô prêtre, qui es-tu? Tout et rien, tu es prêtre. Voilà, donc on reconnaît qui il est à travers, c'est simplement ce que les saints nous révèlent de l'âme profonde du Père Marie-Joseph. Et pour nous tous qui peut-être ne l'aurions pas connu, vous savez que s'il nous a dit que les saints sont avec nous, que dans le corps mystique du Christ, il n'y a pas eux et nous, mais leur vie coule en nous, puisque Jésus est la tête, nous sommes les membres, donc c'est la même vie. Eh bien, demandez-lui qu'il exerce sa grâce sacerdotale envers nous tous, maintenant, tout de suite. Parce que c'est ça, les saints. Je n'ai pas connu la petite Thérèse, je n'ai pas connu saint François. Ça n'a aucune importance, on n'a pas besoin de les avoir connus physiquement. Il suffit maintenant de vivre, de nous mettre dans leurs manches, de leur demander qu'ils nous donnent ce dont ils ont vécu. Alors, oui, parce que là, c'est la partie qui concernera la grâce propre du Père Marie-Joseph par rapport à l'ordre franciscain séculier. Et là, on a ceux qui sont devenus saints en se laissant saisir par une volonté de Dieu à répondre oui à l'appel de l'Église pour réparer l'Église, ce qui est la vocation propre de notre Père Saint-François. Et donc, vous avez... Oui, redescend, c'était bien. Vous avez le fondateur des allocations familiales, Émile Romanet. Il est dans mon texte, mais le nom me reviendra. Le père Saint-Julien Aymar, Sainte-Marguerite de Cortone, Jaeger, c'était un banquier suisse à côté. Regardez, oui, il est très connu parce qu'il est béatifié, donc il est connu. C'est nous qui le connaissons pas. Ensuite, on a la maman de Don Bosco qui est déjà vénérable. Son procès, elle va prochainement être béatifiée. Elle était une enfant de Saint François. À côté, je ne vois pas. Saint-Charles Borromée, le Saint-Vincent de Paul, tous des enfants de Saint-François, dans l'ordre franciscain séculier. Prends la suite. Bernadette, c'est qui arrive à Lyon, jusqu'à là-haut. C'est qui à côté? Là-haut. Non, à côté de Bernadette. Non. Bon, ça fait rien. Bon, ça fait rien. Maintenant, c'est que j'ai trois pages sur eux, mais on va aller à Marie parce que je crois qu'il faut. Ça fait rien, tu passes? Passe. J'aurais voulu vous dire un mot sur. Voilà, on arrive à Marie. Je fais une confession. Un jour, au moment où il y avait une telle tempête dans l'église et où oser dire qu'on aime la Sainte Vierge était comme une offense à l'œcuménisme, non pas au vrai œcuménisme, mais dans l'esprit, dans la pensée de quelques esprits moins éclairés, aimer Marie voulait dire ne pas aimer la communion avec tous les frères. Et un jour, je suis venue dans le bureau du Père Marie-Joseph et je lui dis: Père, si quelqu'un de ses frères qui s'égare venait dans votre bureau, il vous dirait: vous êtes vraiment mariolâtre et papolâtre. Et il me répond simplement, comme ça, du tac au tac: quand tu regardes un film, tu vois pendant 2 heures le héros du film sous tous les angles et dans toutes les formes d'action possibles, imaginables. Eh bien, quand j'ouvre les yeux de la foi, je veux voir Marie sous tous les angles où elle a daigné et voulu se révéler à nous dans son amour maternel. Ce n'est pas être mariolâtre, c'est simplement contempler Marie telle que Dieu nous l'a donnée comme mère. Alors, dans tout ce qui défile sous nos yeux des images de Marie, nous la découvrons comme une mère. Elle est plus mère que reine, dit Thérèse. Alors il dira: à travers Jean, nous avons reçu Marie comme mère. Tout son amour, c'est vers nous qu'elle le tourne désormais. Quel testament! Nous sommes ses enfants. Jésus nous a donné à elle comme ses enfants. Il nous l'a donné comme mère. Et une mère aime son enfant, le presse sur son cœur, le porte sur son bras, le protège, l'aide. Plus il est petit, plus il est misérable, plus elle l'aime. Le curé d'Ars dit: l'amour de toutes les mamans du monde est un bloc de glace en comparaison de l'amour que Marie a pour nous. Vois, écrit-il à sa sœur Rosalie, avec Marie il nous faut faire comme nous l'avons fait avec notre maman. Si nous aimons Marie, nous partagerons aussi son amour pour Jésus. Dans le cœur de Marie, nous trouvons Jésus. Que cherchons-nous de plus? Prie pour que toi et moi, nous l'aimions totalement. Ô très sainte Vierge, C'est toi qui as engendré le Saint en François. Il t'a prié dans une confiance illimitée. Et il a voulu que ses fils de tous les temps t'appartiennent. Marie est celle qui a écrasé la tête du serpent. C'est elle qui produit dans le peuple de Dieu les fruits de sainteté et de salut. Enfants de François, nous sommes sensibles à l'appel que le Christ lui adressa. François, répare ma maison. Mais ce qui permit aux petits pauvres de devenir le héros du grand roi, homme tout catholique et apostolique, c'est sa donation totale à Marie. La consécration à Marie devient donc pour nous un absolu, une urgence. Les temps que nous vivons sont décisifs pour l'avenir de l'humanité. Alors, livrons-nous à la mère de l'Église. Oui, le chemin vers Dieu, c'est Jésus, et le chemin vers Jésus, c'est Marie. C'est inséparable pour nous. Jésus nous a confié à Marie. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, le père Maximilien Marie Kolb l'ont compris comme rarement quelqu'un l'a compris depuis que l'Église existe. Nous aussi aimons Marie, mais peut-on dire que nous l'aimons assez? Depuis que j'ai compris que le père Kolb, ce grand saint, cet homme viril, cet apôtre 100% fils de François, qu'il osait appeler la Sainte Vierge « Maman », et depuis que j'ai vu le pape Jean-Paul II toucher la statue de Notre-Dame de Fatima à la journée des familles, moi aussi, j'ose murmurer en l'appelant « Maman ». Et maintenant, on vient à Saint-Joseph et à la Sainte Famille. Bon, alors, cette statue, j'ai combien de temps? moins 5. Bon, alors, cette statue de Saint-Joseph, si elle pouvait parler, mais elle ne parlera pas, puisque Joseph n'a pas prononcé un seul mot, on sait seulement qu'il a au moins prononcé le nom de Jésus, puisque l'ange lui a dit « Tu lui donneras le nom de Jésus ». Mais sans cela, on ne sait pas un mot de Joseph, et donc tout ce que Père Marie-Joseph lui a confié à travers cette statue reste le secret de Joseph. Mais voilà, quand le Père Marie-Joseph est décédé, le 27 juillet, cette statue était à côté de lui. Et elle l'a donc accompagné jusqu'au bout. Mais Saint Joseph, dans sa vie, a été tout, puisqu'il pourra dire... C'est la fête de Saint Joseph en 1983, donc 10 ans avant sa mort. C'est la fête de Saint Joseph. Je pense pouvoir dire, c'est vrai, que s'il y a quelque bien en nous, nous le devons certainement à Saint Joseph. Le « nous » voulait dire « lui ». Voilà, alors la Sainte Famille. Ah là 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 là. Bon, eh bien j'ai plus le temps, donc je tourne les pages. Il y avait beaucoup sur la Sainte Famille, puis sur les parents, les mamans de saints, Maria Goretti, Thérèse de Lisieux, Don Bosco, les parents de la petite Thérèse. Il explique comment il va toujours à la tombe des parents de saints, que ce soit à Lisieux, que ce soit à Fatima, que ce soit à Lourdes. Il parle de la maman de la petite Thérèse. Il a des pages incroyables sur Gianna Mola. Et je dis au passage que prochainement, il y aura la béatification du frère missionnaire de Gianna Mola, capucin. Et c'est à la prière de ce frère missionnaire au Brésil qu'il y a eu le miracle qui a permis la canonisation de sa sœur. Et donc maintenant, c'est le frère qui a déjà obtenu un miracle et nous nous en réjouissons beaucoup. Alors ensuite, eh ben, évidemment, je n'ai pas parlé de l'ordre franciscain séculier, une grâce
dans l'Église, et le Père Marie-Joseph la relisant dans la communion des saints. Et donc, je vais vous dire, il reste des images. Remets la première, tu sais, la salle. Et voilà, comme ça on a un peu vu l'ensemble. Et juste, je termine, dans le livre La joie de Dieu, ce sont les dernières pages qui s'appellent Méditons le chapelet. Et comme on va prier le chapelet, c'est ça, hein? Eh bien, est-ce qu'on le prie ici ou est-ce qu'on va en face?
Alors, simplement par rapport au chapelet, donc, petite précision et pas tout à fait prévu au programme, donc on nous demande d'être assez rapidement au collège, donc midi, le sel fonctionne, il est avancé d'un quart d'heure, donc midi jusqu'à midi 30, je vous proposerai presque qu'on se rende au collège, et puis qu'on prie, parce qu'il faut une demi-heure, hein, de venir d'ici jusqu'au collège, pour une demi-heure.
Alors, comme j'ai encore du temps, je ne le prends pas.
Alors, il me reste une minute. Et donc, dans cette minute, je vous propose de simplement lire les trois lignes qui précédaient une méditation du chapelet du Père Marie-Joseph qu'il a faite en novembre 91. Dans la première dizaine, nous pensons à Saint François. Alors, il a une audace qui est la sienne. François est, on peut le dire, entièrement à l'effigie de Jésus par Marie. Ce fut une grande grâce. Quelle confiance Jésus a eue dans le jeune François en osant lui dire « François, répare mon église ». François a compris que ce n'est pas la chapelle délabrée qu'il devait rebâtir, mais le temple de Dieu qu'est l'église, et ce temple, c'est chacun d'entre nous. Essayons de comprendre, de réaliser que cette parole « Va, François, répare mon Église » est pour chacun d'entre nous. En ce moment, Jésus nous nomme par notre nom, chacun, chacune. Dans la deuxième dizaine, à Sainte Marie des Anges, François reçut pour lui et pour toute l'Église, les plus grandes grâces. Et la plus grande fut de comprendre à fond la volonté d'amour et de sagesse de Dieu sur lui, pour lui et pour toute l'Église jusqu'à la fin des temps. Demandons à la Sainte Vierge, par l'intermédiaire de Saint François, que nous aussi nous puissions la réjouir. Réjouis-toi, Marie, parce que c'est une joie pour ton cœur de mère quand tes enfants sont beaux et quand par tes enfants le bien se fait. Troisième dizaine. La plus grande grâce dans la vie de Saint François est sa complète identification à tout point de vue avec Jésus, même dans l'extérieur, par l'impression des plaies de Jésus. Ce fut une stupéfaction quand on a appris cela, les stigmates de Jésus sur Saint François. Chez François, les stigmates ont été une confirmation, à la fin de sa vie, de sa pleine conformité à Jésus, le Fils de Dieu, pour autant qu'une créature puisse le réaliser. Il était devenu comme un autre Christ, écrit le pape Paul VI le 29 juin 78 en approuvant la nouvelle règle de l'ordre franciscain séculier. « Ce n'est plus moi qui vis, peut dire François, c'est Jésus qui vit en moi. Ma vie dans la condition humaine,
c'est une vie dans la foi à Jésus qui m'a aimé, qui s'est donné pour moi. Que toute notre fraternité soit de plus en plus animée de cet esprit de foi, de confiance dans l'amour de Jésus. Et comme disait le curé d'Ars, que nous apprenions à accepter la part de croix qui est nécessaire dans le plan de Dieu pour que vraiment le Saint-Esprit puisse réaliser par Marie le chef-d'œuvre que nous-mêmes devons être pour la joie de Dieu. Oui, ô Père des pauvres, rassemble-nous donc dans l'amour du Christ.